libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Il est pratiquement 8h42 sur Radio Classique. Esprit libre avec Pascal Bruckner et Marc Lambon. Messieurs, soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. J'ai pas mal de sujets à vous proposer. Ça tombe plutôt bien. On va débuter avec la sempiternelle réforme des retraites, si je puis dire. Mais oui, mais Marc, il faut y en passer. Mais vous allez voir, on va faire court. Tout de même, on approche du dénouement. Quelles leçons vous tirez finalement de cet épisode? Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde a été en dessous ou quelques personnes se dégagent du lot, si je puis dire?
Alors d'abord, il faudrait arrêter avec la diabolisation du 49.3. Que l'on dégaine. Vous savez, on dégaine comme le coq.
On téléphone. Vous arrêtez votre téléphone en direct.
En marche et voilà. Je vous entends. Vous voyez,
ça, c'est un, si c'est Emmanuel Macron, on prend. Hein, mais sinon,
c'est un effet. Voilà. Donc je recommence.
On va recommencer. Voilà. 40, le téléphone est coupé maintenant.
Le 49.3, ça s'appelle du parlementarisme rationalisé. Ça consiste à lier le sort du gouvernement à un texte et ça sert à éviter ce qu'on a vu sous les 3e ou 4e républiques ou aujourd'hui encore en Grande-Bretagne ou en Italie. Très bien. Deuxième, alors, conclusion, ça pose la question Macron. C'est-à-dire que Macron a refusé la parole maîtresse, il n'y a pas eu de causerie au coin du feu, et il a délégué la gestion de l'affaire à Matignon, ce qui est dans la répartition constitutionnelle des pouvoirs. Mais ça ne va jamais. C'est-à-dire qu'on incrimine le président jupitérien quand il est autoritaire, mais on récrimine quand Jupiter se tait. Donc c'est ce qu'en psychiatrie on appelle un double bind, c'est-à-dire que les deux branches d'une alternative sont pourries. Alors, deux choses encore, avantages, inconvénients. Je pense que le bénéfice que Macron peut en tirer, c'est qu'il aurait été affaibli, voire discrédité, s'il n'avait pas tenu son engagement. Des avantages, c'est qu'il y a un ressentiment qui va sans doute perdurer, on ne sait pas comment il va se cristalliser. Donc, si nous avions un conseil à donner depuis Radio Classique au président de la République, on pourrait dire qu'après le être passé en force, il faut que le roi thaumaturge, le roi guérisseur revienne, et qu'après le monarque horizontal, nous ayons une phase où nous aurions une sorte de pharmacien vertical.
Voilà, les rois thaumaturges, petite référence à Marc Bloch, hein, dont nous avons une pensée, grand historien. Pascal, vous êtes d'accord avec le camarade Lambron?
Oui, alors après cette pensée imminente, je vais revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. Je pense que c'est une mauvaise réforme, très incomplète, qui ne résoudra pas le problème du déficit des retraites. Macron a commis plusieurs erreurs, notamment celle de s'être fâché avec Laurent Berger avant la grève, de l'avoir humilié, dit-on. Je pense qu'il a choisi un mauvais tempo. La France est épuisée après la séance du Covid. Les gens sont fatigués psychiquement. Et ça n'était pas la bonne année pour faire cette réforme. Et puis... Macron a lui-même désavoué la réforme avant même qu'elle ait eu lieu, puisque souvenez-vous qu'en 2019, il disait qu'elle serait injuste. Donc c'est évidemment, tout ça est un peu maladroit. Mais en face, la réponse est encore plus archaïque, c'est-à-dire le blocage de la France comme on le fait depuis maintenant 50 ans. J'ai l'impression de...
Elle n'est pas vraiment bloquée aujourd'hui, la France.
Non, alors justement, voilà ce qui a changé. Ouais. Alors ça, Renaud, c'est ça qui est intéressant. Ouais. D'une part, j'ai pris le métro ce matin, il était presque vide, ce qui est un miracle. La technologie vient à bout des velléités des petits commandos de grévistes. D'une part, en France, on voit bien qu'à Paris, la ligne 1, la ligne 14 et bientôt d'autres lignes n'auront plus besoin de conducteurs. Donc le métro continuera à fonctionner sans conducteur. Et puis le télétravail a rendu un peu caduque l'occupation, le blocage des trains. Et il y a une chose qu'on peut se demander, est-ce qu'au fond, à l'avenir, les Français ne vont pas apprendre à se passer de la SNCF, qui est toujours en grève, toujours? Est-ce qu'on va pas, avec le covoiturage ou avec le bus ou avec d'autres moyens de transport, rendre le train caduque? Et est-ce qu'au fond, on ne va pas sortir nous-mêmes de cette espèce d'alternative entre une réforme annoncée et des grèves
sauf qu'il y aura mise en concurrence européenne.
Il y aura mise en concurrence. Les TGV italiens sont excellents et concurrencent le TGV français.
Ben voilà, maintenant Pascal Bruckner fait de la pub pour les TGV italiens sur l'antenne de
Radio Classique. Je fais de la pub pour la liberté des citoyens.
Mais c'est votre droit le plus strict, mon cher Pascal. Simplement, la réforme pour l'instant n'a pas encore été votée. si elle l'est ou s'il y a un 49-3, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, est-ce que le mouvement continue? On voit que la grève des éboueurs apparaît, par exemple. Elle a été reconduite jusqu'au 20 mars. Cet épisode, alors c'est Paris, mais c'est aussi Le Havre, c'est aussi d'autres grandes villes de province. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que vous avez le sentiment que Hidalgo s'enfonce, la maire de Paris s'enfonce un peu plus en disant je soutiens les éboueurs, alors que, à ce micro, d'ailleurs, Brigitte Autran, présidente du COVARS, disait oui, il y a un risque sanitaire avec cet amoncellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc?
D'abord, je dois confesser que j'ai été naïf. Parce que vous savez que les déjections ou le tas, c'est désormais un motif récurrent de l'art contemporain. Et j'ai cru dans un premier temps que la direction des affaires culturelles de Paris offrait des installations d'art contemporain gratuites dans les rues. Mais finalement, ce n'est pas ça. Je serai bref en me souvenant de la peste d'Albert Camus. Et dans la peste d'Albert Camus, le retour des rats symbolise le malheur récurrent de la condition humaine. Donc, est-ce que les surmulots sont camusiens? Est-ce que Madame Hidalgo vote pour le malheur et sa récurrence? C'est une question que je pose au philosophe Pascal Bruckner.
Et la réponse du philosophe Pascal Bruckner, alors?
Anne Hidalgo choisit ses idées politiques sur le bien-être des Parisiens, c'est-à-dire que la militante l'emporte sur la chef de la capitale. C'est dommage, sauf que vous savez qu'il y a une manifestation ce soir pour protester contre la réforme des retraites et que des sociétés privées vont nettoyer les rues le long
du parcours
lors des manifestations, ouais, pour éviter que les plus excités se servent des projectiles pour les lancer sur les forces de l'ordre. Donc, dans la nécessité, la mairie de Paris, c'est ce qu'il faut faire. Cela ne grandit pas Madame Hidalgo, qui n'avait pas besoin de cette épreuve pour être vu de cette façon-là. C'est un peu dommage. Alors, on est très très loin de la peste de Camus. On est dans les microscopiques calculs politiques, je dois dire assez médiocres. Et bon, Paris est dégueulasse, mais on s'habitue à vivre dans une ville qui ressemble, dans certains quartiers, de plus en plus à Naples.
Il y a quand même un problème, c'est que les tas d'immondices font obstacle à la libre circulation des trottinettes. Et là, il y a comme une contradiction dans la politique municipale.
Oui, les mobilités toutes sont en puanti. Merci, voilà. Madame Hidalgo. Voilà.
L'ironie de Pascal Bruckner et de Marc Lombron. Je voudrais qu'on parle d'une affiche qu'on a vue, mais qui a été retirée. Une affiche qui se trouvait dans le métro parisien. Les soins palliatifs ajoutent de la vie au jour. Alors, on voyait, je vais essayer de décrire cette affiche à nos auditeurs, on voyait un monsieur assez âgé, papy, parce que papy que j'aime trop, avec une petite fille à ses côtés, un chat, manifestement la mère de la petite fille, et donc la fille certainement de ce monsieur, son nouveau copain, donc qui était un infirmier qui est en train effectivement de lui installer un certain nombre de choses autour de lui, et cette affiche, elle vous a choqué, Pascal. Alors, je vais donner le slogan, c'est « Donner la mort n'est pas un soin, ni pour le patient, ni pour les proches ».
Oui, alors c'est une affiche prosélyte que j'ai vue dans le métro la semaine dernière, en venant précisément à Radio Classique. Elle est faite par la SFAP, Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Et on nous demande d'adopter une affiche, qui était une chose étrange, mais enfin bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Alors, c'est le graphisme des contes pour enfants. On voit notamment, il y a un petit chat aussi sur le lit, oui, du papy. Alors, amener un petit chat en soins palliatifs, je dois dire que vous serez immédiatement bloqué par les infirmiers. Le nouveau copain du grand-père, c'est-à-dire l'infirmier, a un chignon et des boucles d'oreilles. Alors évidemment...
Bon, il a le droit d'avoir un chignon.
Non mais évidemment, mais c'est parce que je suis réactionnaire. Oui, oui. Il est non-binaire, mais que je suis bête, je l'ai compris, après une explication de texte. Et alors, où est le malaise dans ce dessin? C'est dans la fausseté du message. Personne ne nie le rôle fondamental des soins palliatifs qui permettent aux patients en fin de vie d'attendre la mort sans souffrir. Mais on est là dans une sorte de lyrisme de la Camarde qui transforme la mort des autres ou des proches en un roman idyllique. Et on trouve chez certains propagandistes des soins palliatifs une espèce d'ébriété qui les pousse à tout euphémiser, à repeindre en rose un événement qui reste, quoi qu'on en dise, assez tragique. Et je me méfie, pour ma part, des prosélytes de l'agonie enjouée, qui manifestent parfois derrière leur gentillesse exubérante un fanatisme qui fait peur, surtout quand ils veulent interdire à ceux qui en font la demande de hâter la fin de leur existence.
Marc, quand même, l'intérêt, parce que bon, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec Pascal, ça lance le débat, ça mérite de poser quand même des questions qui sont des questions importantes sur la fin de vie, sur les soins palliatifs tout de même. Ce type de campagne, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on en parle, c'est que ça nous heurte, que ça nous interpelle.
Ce qui est intéressant, c'est la façon dont la campagne est dessinée. L'esthétique, c'est un peu Roba, vous vous souvenez de Boulet Bill. Alors, il y a au moins, à mon avis, trois mensonges. Le premier, comme l'a dit Pascal, c'est un détail, mais les animaux domestiques ne sont pas admis dans les chambres d'hôpital. Deuxièmement, un des slogans, c'est « les soins palliatifs ajoutent de la vie au jour ». Jusqu'à nouvel ordre, les soins palliatifs abrègent la vie. Et troisièmement, il y a une sorte d'angélisation, c'est-à-dire, moi, pour en avoir eu l'expérience, les soins palliatifs, c'est pas une fête d'anniversaire, c'est plutôt un passage de la souffrance à l'inconscience provoquée par injection massive de morphine. Bon, alors, je pense que la mort est devenue gênante pour nos sociétés, ça on le sait. Donc, soit on l'escamote, soit comme ici, il y a une disneyisation. C'est-à-dire, l'hôpital, c'est une BD, c'est Euro Disney, ça n'est ni plus ni moins réel que les Pirates des Caraïbes ou la Maison Hantée, ce qui nous donnerait le triple slogan, angélisation, disneyisation, déréalisation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... Ça dit quelque chose de nous, hein. C'est notre désir d'une société de confort, dans laquelle on travaillerait pas plus longtemps qu'aujourd'hui, dans laquelle... On veut sur-sécuriser les naissances indésirables. L'idée d'inscrire l'IVG dans la Constitution, alors que personne ne le conteste depuis 1975. Et pour finir, il nous faut mourir dans la joie. Moi, la question finale que ça m'inspire, c'est qu'en penserait un Ukrainien? Point d'interrogation.
Vous savez, Renaud, en 1947, un Anglais, un sociologue anglais avait inventé une expression qui a fait floresque, la pornographie de la mort. C'est-à-dire que, après la Seconde Guerre mondiale, les sociétés riches s'inscrivaient dans une allergie progressive à la mort qui avait commencé avec un roman de Tolstoï, la Sonate à Kreutzer, où un homme malade d'un cancer est petit à petit ostracisé par son entourage parce qu'il sent mauvais et que personne ne veut entendre parler de cet événement abominable. Et bien là, dans le cas de cette affiche, on est, comme l'a dit Marc, toujours dans la négation de la mort, dans le déni de son atrocité, et on l'enrobe en quelque sorte dans la sucrerie, dans la mièvrerie, et on en fait un moment sympa de l'existence. Papy meurt, mais c'est cool, et maman a même apporté un gâteau en sus du chat sur le lit.
La mort, c'est de la barbe à grand-papa.
Oui, c'est la barbe à grand-papa.
C'est la mort foraine.
Oui. On va rester dans la mort, une mort qui a marqué toute l'Italie en 1978. Marc, c'est la mort d'Aldo Moro. On en parlait ce matin avec le camarade Samuel Blumenfeld à 7h40. Une série sur Arte. Une série que vous avez vue, Marc, et que vous conseillez évidemment à tous les auditeurs de Radio Classique.
Oui, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Samuel Blumenfeld. Donc c'est Estelle Nonoté, c'est ce soir et demain soir. C'est une mini-série en fait, c'est 6h, ouais. 3h. C'est pas un documentaire, hein, c'est une fiction politique.
Marco Bellocchio quand même, le réalisateur.
De Bellocchio, 83 ans, qui avait déjà fait en 2019 ce film sur un repenti.
Le traître.
Buscetta, le traître.
Ça, ouais.
Ce qui me frappe, c'est que l'Italie, malgré tout, on dit parfois que son cinéma est moribond, mais il y a toujours ce rapport d'analyse avec l'histoire nationale. Ça a commencé immédiatement avec le néo-réalisme qui est en 46-47. Mais souvenez-vous des films d'Elio Petri ou de Francesco Rosi, film politique des années 70, de Bertolucci, le conformiste Novecento, et plus récemment d'ailleurs Sorrentino qui fait un film sur Andreotti et un film sur Berlusconi. Une seule réserve quand même sur cette série remarquable, c'est que il est aujourd'hui établi que la démocratie chrétienne a laissé pourrir le rapt d'Aldo Moro parce que le compromis historique avec le Parti communiste s'annonçait et que Andreotti a joué un jeu abominable. Andreotti surnommé Belzébuth. Alors ça, on le voit très bien dans la série, mais ça éclipse presque la responsabilité première des Brigades Rouges qui ont tout de même enlevé et séquestré et exécuté Aldo Moro. Donc il y a un léger parfum de culture de l'excuse au bénéfice des Brigades Rouges. Léger.
Pascal, il nous reste 20 secondes. Vous êtes intéressé par ce documentaire, même si je sais que vous préférez les films d'horreur.
Oui, alors non, je vais le regarder, mais effectivement, ce que m'en dit Marc est très intéressant. Mais c'est vrai que la culture de l'excuse avait été plutôt une habitude française. C'est Mitterrand qui avait accueilli tous les terroristes, ex-terroristes des Brigades Rouges, dits repentis. Les Italiens en étaient furieux. Et donc, je vais voir si véritablement, ce soir, la série confirme cette culture de l'excuse ou au contraire, la refuse. Mais ancien pays fasciste, l'Italie a eu effectivement une culture de terrorisme qui n'a pas existé en France grâce à la sagesse, il faut le dire quand même, de nos gauchistes qui ont refusé de basculer dans la violence armée. Et ça, il faut leur rendre hommage malgré tout.
Esprit libre avec Pascal Bruckner et Marc Lombron. Merci messieurs d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.